Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue sur Famille, justice, enfance, un nouveau direct depuis le Périgord sur 102.3 dans votre émission de radio sur la famille, la justice, l'éducation, la protection de l'enfance, les problématiques liées à la famille occidentale contemporaine. Aujourd'hui, nous allons parler multiplateforme, nous allons parler littérature, nous allons parler exposition, nous allons parler cinéma, nous allons parler de plein de domaines, nous allons parler avec Marco Barbon, le projet Le Soleil Même la Nuit. Alors le projet Le Soleil Même la Nuit est un projet transmédia, il y a un livre, nous avons La Calpa qui s'est associée à ce livre, nous avons Marco Barbon qui est un auteur, qui est aussi un photographe professionnel, qui a fait des très jolies choses. Nous avons des textes de Marie-France Irigoyen, de Bruno Humbeck, une préface d'Irène Thierry. C'est un gros travail que nous voulions parler ce soir et nous sommes en direct avec Marco. Marco, bonsoir.
Bonsoir Stéphane.
Alors, est-ce que cette présentation vous convient ou est-ce que vous voulez... déjà, explique-nous un petit peu. Qu'est-ce que ce projet Le Soleil Même la Nuit?
C'est un projet transmédia que j'ai commencé il y a 3 ans. Donc, transmédia, c'est-à-dire que ça va se décliner en différents médiums. Et le projet a démarré avec un travail photographique, des photographies et des textes. Mm-hmm. Le travail photographique, c'est un travail que j'ai réalisé, que j'ai commencé en 2022, que j'ai terminé il y a 6 mois, et qui vient d'être publié sous forme de livre aux éditions locaux, avec, comme tu as dit justement, les textes de Marie-France Irigoyen, Irène Thierry et Bruno Humbeck, donc une psychiatre et psychothérapeute familiale, une sociologue et un psychopédagogue, comme il aime se définir Bruno Humbeck.
D'accord.
Et avec un ensemble de témoignages des parents, en fait. Parce que j'ai rencontré, via la Calpa, mais aussi d'autres associations des parents et aussi via mon réseau personnel, un certain nombre de parents partout en France qui vivent des situations de rupture du lien parental, précisément de rupture de la relation parentale, depuis plusieurs mois ou depuis plusieurs années. Donc ça, en fait, pour revenir à la question, donc c'est les premiers volets du projet qui maintenant existe sous forme de livre, mais qui va exister sous forme d'exposition itinérante dans des lieux grand public en France. On va commencer par Paris et puis ça sera sans doute Marseille et probablement Toulouse et d'autres lieux. Et après, il y a d'autres volets en fait qui vont être un travail de documentation sonore qu'on a déjà démarré, mais qui doit être encore complété, qui est censé être présenté dans le cadre de l'exposition transmédia. Un film documentaire, qu'on est en train d'écrire et de développer avec des sociétés de production parisiennes, une vidéo court-métrage d'horrifiction, on va dire comme ça, une BD et d'autres contenus. Donc vous voyez, c'est un projet effectivement complexe qui est destiné à s'articuler en plusieurs années, à se développer petit à petit sur plusieurs années. Voilà, donc là on vient de commencer avec ces travaux photo et ces livres qui viennent de paraître.
D'accord. Donc là, on va préciser, la CALPA, c'est l'association contre l'aliénation parentale et la rupture du lien...
C'est l'association contre l'aliénation parentale et pour les liens familiales.
Voilà.
Pour la sauvegarde des liens familiales. Donc, c'est une des associations que j'ai contactées parce que je me renseigne, je connais cette problématique aussi pour des raisons personnelles depuis... presque 15 ans et du coup depuis une dizaine d'années en fait j'ai rencontré un certain nombre d'associations, de professionnels de la parentalité, de l'enfance, etc. et en fait j'ai aussi rencontré des parents qui vivaient des situations de rupture du lien parental.
Voilà, c'était pour expliquer le contexte, en fait. Voilà, nous parlons du domaine où effectivement les parents ne voient pas, enfin le lien entre certains parents et certains enfants sont rompus. C'est ce lien de filiation, d'autorité parentale, d'éducation, de parentalité en fait, est distendu. C'est un phénomène qui est malheureusement très fréquent en Occident. Contrairement à ce qu'on peut constater en Orient, au Moyen-Orient, en Afrique, en Russie, dans d'autres cultures que la culture véritablement occidentale. Et tout ça, en fait, c'est un travail qui est fait autour de cette problématique des enfants qui perdent leurs parents et des parents qui ont du mal à transmettre leurs valeurs à leurs enfants. C'est bien ça, hein ?
Oui, il s'agit de ça, effectivement. Alors, il y a une, je pense, cette formule, cette expression aliénation parentale qui a été introduite dans les années 80 par un pédopsychiatre américain.
Oui, il n'était pas que psychiatre, il était pédo aussi. Voilà, mais bon, et c'est ça qui pose problème d'ailleurs, c'est la reconnaissance, cette chose-là qui pose problème parce que celui qui a mis ce mot dessus est quelqu'un de très critiquable. Mais on ne dira jamais assez que le phénomène avait été décrit et constaté préalablement. On connaît le syndrome de Médée, par exemple, qui était décrit au préalable, et il y a eu plusieurs études qui ont mis en place, qui ont montré que lorsqu'on coupait un enfant d'un de ses parents, on pouvait avoir des phénomènes d'enfants qui se dressaient contre son parent. Enfin, il y avait des conséquences et des séquelles. Moi, je renvoie aussi vers les travaux d'Alain Bourregba hein, sur ça, qui sont extrêmement conséquents.
Oui, ben il y a plusieurs effectivement chercheurs et chercheuses qui sont penchés sur la question. Alors moi, pour revenir à cette formule, cette expression, moi, c'est une expression que j'utilise pas en fait dans mon projet. Je préfère parler parce que c'était une formule qui a été tellement attaquée que finalement en fait, elle a été vraiment au centre d'une polémique. Je trouve que il faut dépasser cette polémique là pour s'épancher sur les sujets, enfin sur les phénomènes qui existent.
Hein. Déjà, même c'est une question de vocabulaire. Hein. On parle d'emprise, on parle de suggestion, on parle.
Voilà, exactement. Voilà. Donc en fait, déjà les mots syndrome ne correspondent pas à la situation parce qu'il s'agit justement d'une situation. C'est pas un syndrome, c'est pas une maladie, mais c'est une situation familiale. Et donc dans un contexte dynamique, donc voilà, comme le dit très bien Marie-France Figoyen, qui est une des spécialistes de la question. Donc moi je parle plutôt j'utilise d'autres expressions, exclusion parentale ou parentalité empêchée par exemple, qui sont, voilà, on peut parler aussi de parentalité abîmée, donc c'est le cas, ça touche beaucoup de gens, même au-delà des liens vraiment qui sont coupés, même des situations qui sont difficiles pour les parents, des parents même qui continuent à avoir leurs enfants, mais qui ont des relations très complexes, très difficiles. Voilà. Donc du coup, voilà, c'était vraiment pour essayer. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais une approche, il y a eu quelques documentaires, quelques tentatives effectivement de restituer par l'image ces phénomènes-là, mais moi je me suis rendu compte qu'il n'y avait jamais un travail de fond qui utilise justement l'image, les sons et pourquoi pas les récits pour parler de cette question-là.
Il y a quelques courts-métrages, il y a quelques ouvrages, mais il n'y a pas d'ensemble multi-support, multi-réseau comme vous l'envisagez aujourd'hui.
Oui, exactement. Et après, j'ai aussi réalisé le fait qu'il y avait vraiment la tendance à traiter cette thématique d'une manière genrée, c'est-à-dire à se mettre du point de vue des pères seulement ou seulement du point de vue des mères. Et alors que, en fait, je me suis assez vite rendu compte, en fait, en rencontrant à la fois les associations, mais aussi des parents qui vivaient cette thématique-là, que c'est une problématique qui touche tout le monde, en fait. Ça touche déjà des personnes qui appartiennent à des niveaux socioculturels différents. C'est vraiment, ça touche des gens qui habitent partout en France, et ça touche à la fois des pères et des mères, et même des couples homo, évidemment, en fait. Donc voilà qu'il y avait. J'ai réalisé qu'il y avait vraiment un biais qu'il fallait complètement dépasser. C'est celui de prendre la question, d'attaquer la question d'un point de vue genré. Donc de défendre, par exemple, les droits des parents, enfin des pères, ou sinon seulement les droits des mères à avoir les enfants, etc. Donc c'est pour ça que moi j'ai assez vite exclu toutes les associations qui prennent un parti genré, en fait. Et j'ai choisi principalement la CALPA comme source de contact des parents qui vivent ces situations-là, justement parce qu'elle regroupe à la fois des pères et des mères qui vivent ces situations.
Voilà, vous avez raison. Vous avez raison. D'ailleurs, bon, historiquement, les gens qui suivent l'émission le savent. Hein, l'émission, l'ADN de l'émission au départ, c'était le mouvement à égalité parentale avec la manifestation du 16 mai 2018. Et on s'était dissocié, nous aussi, d'associations historiques qui défendaient uniquement un type de parent. Et on s'était placé sur le point de vue idéologique de défense du lien parental. Voilà. En se plaçant sur la défense du lien parental, de l'autorité parentale, du lien parental, quel que soit le parent et quel que soit le type de famille, on sortait des polémiques. Ça veut dire que c'était le lien parent-enfant de tous les types de familles et de tous les types de parents. Et c'est la protection de ce lien-là sur lequel on s'était positionné. Et finalement, ça rejoint exactement ce que vous êtes en train de dire.
Oui, ben l'idée, c'est effectivement de travailler. Enfin, bon, mon idée de départ, c'est effectivement de travailler par les récits, donc à la fois les témoignages, mais aussi la mise à récit à travers l'image sur l'histoire. C'est l'histoire de ces liens qui a été brisé, qui a été interrompu ou abîmé, et peut-être juste temporairement, en fait, et juste pendant certaines périodes. Et justement, je suis parti un peu des réflexions de Boris Cyrulnik par rapport à ce qu'il appelle la résilience.
Oui, Boris Cyrulnik, psychiatre français bien connu. Oui.
Voilà, Boris Cyrulnik, c'est un psychiatre français qui a écrit beaucoup sur les traumatismes et sur la manière justement de dépasser ces traumatismes et de transformer son destin en histoire. Alors, il y a une phrase qui m'a marqué, qui a écrit dans un texte qui s'appelle Le vilain petit canard, qui dit effectivement pour transformer son destin en histoire, il faut un témoin. Quelqu'un d'autre qui en fait confier sa propre histoire. Et puis il disait en fait une autre phrase qui est intéressante: l'effet résilient consiste à s'engager dans un travail d'écriture pour se confronter à une situation qui inclut la relation inter-absent. C'est-à-dire en fait pour parler de ces histoires qui sont traumatiques, justement la perte ou l'interruption du lien avec ses enfants, et pour pouvoir avancer dans sa vie, pour pouvoir aussi se positionner d'une manière à transformer sa vie et peut-être aussi trouver les moyens de pouvoir renouer avec ses propres enfants, il fallait en fait transformer son mettre en récit sa propre histoire. Et du coup, en fait, j'ai sélectionné, disons, un certain nombre de parents, précisément une trentaine de parents. Après, il y en a 26 dans le livre, mais j'ai rencontré une trentaine de parents dans différents lieux en France. Et du coup, en fait, à la fois des pères et des mères, et aussi une mère qui était dans un couple homosexuel. Et j'ai demandé, en fait, à la fois de me raconter leur histoire et aussi de s'engager dans un travail de mise en scène que j'ai par la suite photographié comme une espèce de théâtralisation de leur lien à leur propre enfant. Voilà.
Ok. Alors, Marco Barbon. Marco Barbon, vous êtes photographe. C'est ça aussi qui m'intéressait et que je voulais, sur lequel je voulais aller, parce que vous êtes d'origine italienne, vous êtes un photographe. D'ailleurs, le site lesoleilmemelanuit.net est très beau et très visuel. Un photographe, c'est quelqu'un qui a un regard. Donc forcément, on a un regard, on prend des instantanés, on met en image. Donc en portant ce projet, vous avez forcément voulu montrer quelque chose, vous avez forcément vu les choses d'une certaine manière. Question numéro un, qui êtes-vous déjà? Qu'est-ce que vous faites comme métier, votre métier d'origine, qu'est-ce que c'est? Et question numéro deux, vraiment là, qu'est-ce que vous avez réussi à montrer, à prendre en photo et à projeter?
Alors moi j'ai une formation en philosophie à la base. J'ai fait une thèse de doctorat en théorie de l'image. Donc j'ai une approche assez théorique et conceptuelle à l'image. D'accord. Et par la suite, j'ai travaillé pour l'agence Magnum Photo, mais en tant qu'éditeur, comment dire, photo editor.
Ah, donc vous êtes vraiment dans l'image, le rendu, la pensée de l'image, le message de l'image. Voilà, tout à fait. C'est bien, c'est intéressant de le dire.
Oui,
d'accord.
Okay. Oui, ça c'était pour comprendre effectivement comment j'en suis arrivé là. Et c'était que j'ai commencé un travail photo personnel en 2005. Et donc, du coup, j'ai commencé des projets personnels sur différentes thématiques. Mmh. J'ai beaucoup travaillé dans les passés, je continue à travailler sur la question de la relation entre les réels et l'imaginaire. Cette ligne de frontière entre les réels et l'imaginaire, aussi sur l'invisible, en fait, on peut D'accord. dire comme ça. Et comment une image peut restituer ce qui est invisible okay. par des éléments et qui en sont la trace.
Et donc, dans ce projet, vous avez trouvé une trentaine de familles, vous avez mis en image leur histoire, et votre prisme de vision, en fait, qu'est-ce qu'il a vu? Comment est-ce qu'on devient désenfanté, en fait? Comment est-ce que ce lien de filiation, ce lien d'éducation se perd? Comment est-ce qu'on en arrive là, en fait? Qu'est-ce que vous avez vu, vous?
Alors, moi, j'ai pas travaillé sur les causes ou sur ce qui a amené à la situation de la rupture du lien. Ce que j'ai essayé de mettre en image, c'est vraiment
le résultat.
Un lien avec la question de l'invisible, de l'absence. Mm-hmm. C'est qu'en fait, les paris, c'était de montrer par l'image que l'absence de l'enfant, en fait, la rupture du lien. Et du coup,
vous vouliez montrer les parents et le trou de l'absence de l'enfant, d'accord.
Oui, d'essayer de mettre en image, de représenter qu'est-ce que c'est que le lien parental au moment où ce lien est interrompu. Et donc, comment ça veut dire, en fait, pour les traduire différemment, c'est comment, en fait, avec quels moyens. De quoi est fait, en fait, ces liens parentaux, cette relation parentale. Et alors, du coup, en fait, je me suis rendu compte que ces liens étaient faits en travaillant avec les récits des parents, que ces liens étaient faits d'objets, étaient faits des lieux, étaient faits des souvenirs, étaient faits des rêves, étaient faits des projections imaginaires, etc.
Vous savez, donc, voilà. Moi, j'ai assisté à des défilés de poussettes vides. C'est-à-dire des parents qui allaient manifester et qui avaient des poussettes vides, et à la place de l'enfant, il y avait par exemple leur dossier juridique. C'était des images très fortes aussi, ça.
Ben là, en fait, dans les travaux, effectivement, dans le travail photo, il y a une image d'un papa qui, effectivement, avec la poussette de son fils qui est vide, et là, en fait, voilà, il y a un texte qui raconte de ces vides-là et de comment, justement, il vit avec ce vide. Mais c'est vrai qu'en fait, au-delà du dossier de justice, il y a aussi plein de choses, parce que quand on parle d'un lien qui se brise, qui s'interrompt, et en même temps, ces liens existent toujours, existera toujours, en fait, c'est quelque chose d'indissoluble, en fait, mais qui se lie différemment à travers la distance.
Ah, moi, j'ai des amis personnels qui se sont séparés, enfin, leur enfant s'est séparé d'eux il y a une trentaine ou une quarantaine d'années, lors d'une séparation qui s'est mal produite, où ils ont été, le temps de séparation a été trop long, l'autre parent a fait une espèce de montage de crâne quasiment sectaire, journalier, durant plusieurs années, et encore aujourd'hui, chaque Noël, chaque anniversaire, ils envoient un texto, ils essayent et ils se font rabrouer. Et l'enfant a 30, 35, 40 ans. Mais le parent ne renonce jamais, en fait. Il a toujours, toujours son attachement à son enfant à l'intérieur, même si l'enfant veut plus de lui, parce qu'il a été monté quand il était petit, ça ne disparaît pas. Je n'ai pas vu de gens qui m'ont dit « Ah non, j'ai fait une croix, je m'en moque, j'ai oublié ». Jamais entendu ça, jamais.
Non, bien sûr. Il y a toujours quelque chose, ça se transforme. Et de toute façon, surtout si les parents ont vécu une certaine période, la période de l'enfance, la petite enfance avec ses enfants ou son enfant, ces liens restent toujours en fait présents, à la fois chez les parents, mais aussi chez les enfants, bien évidemment. En fait.
Ah, il y a des conséquences pour les enfants, hein, le fait d'avoir un parent imaginaire, parce qu'on a besoin d'avoir ces deux composants, donc on a imaginé un parent en fait, qui est différent du réel, il y a des conséquences très graves, hein, pour l'enfant.
Hein. Oui, bien sûr, il y a des conséquences en termes, alors ça ne se voit pas forcément au début, parce qu'en fait,
ça met du temps.
Il y a des conséquences psychologiques qui se mettent en place, etc. Mais évidemment, en fait, du moment où un enfant est coupé de la moitié de sa propre identité, en fait, de toute une... Parce qu'en fait, quand on parle des parents, on oublie aussi, c'est que ça va au-delà des parents. C'est vraiment toute une famille, tout l'entourage familial, tout un entourage familial.
C'est la moitié de l'arbre généalogique qui disparaît, bien sûr. Oui, bien sûr.
Et du coup, il y a une transmission, c'est ce que moi, j'aime bien parler, qu'il y a une transmission vraiment intergénérationnelle de la violence qui a mis en place. Donc, en fait, c'est vraiment une question qu'il faut prendre à bras les corps. Enfin, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer ces vastes projets. C'est en fait pour essayer de sensibiliser l'opinion publique aux effets dévastateurs en fait de cette problématique qui touche de plus en plus de familles en France, comme vous avez bien dit, dans toutes les sociétés occidentales. Alors, ouais. Ça arrive moins effectivement en Afrique pour d'autres raisons, pour des raisons en fait de la structure clanique aussi de leur société. Mais en tout cas, ça, du coup, l'idée, c'est, je pense que c'était l'idée en fait de prendre conscience, d'aider les parents à prendre conscience de leur place, de leur position, et à travers la mise en récit aussi essayer d'évoluer positivement et en tout cas de témoigner aussi de leur situation face à la société, de ne pas rester enfermé dans leur situation personnelle, mais se rendre compte qu'en fait ils font partie enfin il y en a beaucoup de parents qui vivent ces situations-là, ce qui les aide aussi effectivement, le fait de savoir qu'il y en a d'autres qui vivent exactement la même situation, parce qu'il y a des analogies assez impressionnantes entre les histoires et dans les différences évidemment, parce qu'il y a chaque histoire est différente et singulière, il y a beaucoup d'analogies et du coup c'est vraiment l'idée de d'entamer une sensibilisation au niveau sociétal et de parler des différents aspects de la thématique. Parce que, bon, évidemment, il y a les points de vue des parents, mais il y a aussi les témoignages, c'est quelque chose que j'ai envie de développer, les témoignages des enfants qui ont grandi et qui ont vécu cette situation-là quand ils étaient enfants et qui se sont retrouvés, quand ils deviennent à leur tour parents, confrontés à quelque chose qui s'est passé dans leur histoire familiale et qui est très violent. Voilà.
Ok. Marco Barbon, le projet Le Soleil, même la nuit, sur la rupture du lien parental. Je suis très intéressé aussi par la qualité des gens que vous avez réussi à mettre autour de vous. On retrouve des figures connues hein, de l'émission Famille Justice Enfance. On retrouve Olga Odinets de la CALPA. On retrouve bien évidemment Jean-Pierre Comfort, qui est passé sur nos antennes, Dominique Masse, qui est passé sur nos antennes, Marie-France Irigoyenne, que j'essaye d'avoir, des personnes aussi qu'il faudra que je contacte, hein, Olivia Troupel, Irène Théry, sociologue, Cyril Braniste. Vous êtes aussi un proche de Sarah Mazzotta, que nous avons entendu ici, hein, la coordination familiale, Barbara Réjean, les avocats de la paix. Et vous commenciez à entamer un sujet qui nous aussi dans l'associatif nous intéresse énormément, c'est le récit des enfants et le point de vue des enfants, parce que en fait tout ce qui a été fait aujourd'hui c'était du point de vue des parents, des parentalités qui se plaignaient. Et ça n'a jamais tellement abouti. Et nous on dit que ce problème sera pris à bras le corps lorsque ce seront les enfants qui en tant que victimes iront porter plainte contre l'État parce que l'État, en fait, les aura fait souffrir en sachant délibérément que la rupture du lien parent-enfant était traumatisant pour l'enfant. Vous voyez, au niveau juridique, je pense que nous ferons avancer les choses lorsque nous mettrons ensemble des enfants victimes qui iront mettre l'État face à ses responsabilités. Parce que nous, en tant que parents, on n'y arrive pas. Je pense que la solution viendra du point de vue des enfants. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, oui, je trouve effectivement c'est assez juste. Après, la question, c'est que de la part des enfants, je pense que ça demande vraiment un travail sur eux-mêmes très, très important.
Enfin, des enfants devenus adultes, hein, bien évidemment. Hein. On ne prend pas des enfants de 9-10 ans pour les faire parler. On prend des gens qui ont été victimes en ayant été enfants, bien sûr.
Oui. Mais en fait, quand ils deviennent adultes, comment dire, ils doivent, s'ils veulent se confronter à cette histoire qui était très lourde et qui les concerne, concernait leur enfance, ils doivent sûrement des sentiments de culpabilité énormes. En fait, c'est des choses qui ont été...
Oui, ils somatisent et culpabilisent un petit peu. Oui.
Voilà, exactement. Donc, en fait, ça, déjà, pas tout le monde, pas tous les enfants sont capables de le faire.
Non, mais ça vient. Regardez Marie-Estelle Dupont. Marie-Estelle Dupont dit « J'ai été une enfant aliénée, j'ai été montée contre mon père et j'en ai souffert. » Elle l'écrit, elle le dit, elle l'assume. C'est une femme, voilà, elle a une parole quand même.
Oui,
voilà.
Oui, je pense qu'effectivement, ce que je veux dire, c'est que c'est pas tous les enfants qui le font ou sont capables de le faire, qui veulent vraiment le faire. Donc, et après, c'est vrai que c'est important, effectivement, si vous voulez-là. Après, du point de vue des parents, en fait, parce que vous dites, évidemment, les parents qui se plaignent ne sont pas entendus. Mais justement, en fait, moi je crois, en fait, et c'est un peu l'idée de...
Non, on les traite d'égoïstes et on leur dit que c'est l'intérêt de l'enfant qui va avant. Mais vu que les études universitaires récentes démontrent que c'est un traumatisme pour l'enfant et que priver l'enfant d'un de ses parents l'endommage, l'enfant, en tant que victime, peut entamer des procédures contre l'État qui n'a pas tenu compte des études universitaires et donc l'a endommagé, lui, personnellement. Vous voyez, votre douleur, à vous et à moi, elle ne sera pas entendue, mais l'enfant demandant réparation par rapport à son traumatisme, lui, juridiquement, il a une teneur.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Après, je vous dis, en fait, du point de vue des parents, je trouve aussi, d'où aussi les titres du projet et les points de vue que j'assume, c'est qu'en fait, c'est pas de se plaindre ou se victimiser en tant que parent, mais de parler de l'importance du lien parental, de parler d'où, en fait, voilà, les titres, les soleils, même la nuit, c'est en fait, c'est vraiment, il veut souligner le fait que l'amour parental est toujours présent, en fait, comme un soleil. Brille dans la nuit noire, quoi. Donc, c'est un peu ça l'idée du projet.
Ok. Alors, le projet Le Soleil Même la Nuit, aujourd'hui, c'est donc, on va le redire, un livre, un ouvrage avec des auteurs prestigieux, hein, Bruno Humbeck, Marie-France Irigoyenne, Irène Perry, Marco Barbon, notamment des photos de grande qualité qui montrent, qui expliquent. Là, effectivement, faites partie des gens qui montraient. Il faut montrer l'existant pour faire accepter la réalité, pour la mettre en avant. En quelques secondes, là, en 30 secondes, une minute, quels sont les projets à venir les événements à venir de ce projet Le Soleil Même la Nuit? Une tournée en province, d'autres médias?
Oui, alors, il y aura, un des projets, c'est la réalisation d'une BD destinée aux adolescents et aux jeunes, en fait, justement pour sensibiliser les jeunes à cette thématique. Il y a un projet de films documentaires. Il y a un projet, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, de témoignages, de documentation sonore avec des témoignages des enfants qui ont grandi et qui sont maintenant adultes et qui ont vécu en tant qu'enfants des victimes de ces situations-là. Et puis voilà, un tas d'autres projets qui vont se développer. Et voilà, je vous dis, c'est vraiment un travail sur le long terme. Mais l'idée, c'est d'aborder toutes les facettes de cette thématique et de pouvoir... voilà.
Ok. Marco Barbon, peut-être que votre tournée passera par Périgueux, auquel cas je serai ravi de vous rencontrer, de nous inviter dans nos studios en présentiel. Je rappelle, c'est le projet Le Soleil, Même la Nuit, un ouvrage, des photos. À tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir Marco, au revoir.
Merci Stéphane, à bientôt.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.